Agréable, ça sur France Inter, c'est Au de mon amour, Buena Vista Social Club. Et on adore changer de continent. Eh oui, on est tous des terriens, hein, comme le disait Yannick Jolin ce matin. Et oui, nous sommes tous des terriens. Et nous sommes en compagnie donc de Pierre Radan, expert en énergie. Et lorsque vous étiez à Bali, parce que là, on va encore changer l'autre continent. Nous partons sur Bali, parce qu'on va essayer de voir comment fonctionne une négociation internationale. Et puis quand même, Bali a été important. Alors même si on n'est plus dans l'actualité directe, on y est quand même beaucoup. Et on va se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il y avait sur votre badge, Pierre Radan, lorsque vous étiez à Bali? Qu'est-ce qu'il y avait?
Oh là, c'était très très chic. Intergouvernemental.
Yes.
Ah oui, oh là, ça assure. En fait, j'étais à Bali pour l'Agence de la francophonie. Mm-hmm. Et je suis le conseil des pays francophones sur ces négociations sur le climat, et notamment, c'est pour moi un grand plaisir pour les pays africains.
Alors,
regardez cette question-là aussi du côté du Sud et pas seulement du côté du Nord.
Alors ça va être intéressant, parce qu'il y a vraiment une question de fond qui a émergé, et vous allez nous en parler, mais on va planter le décor. Bon, on sait que Kyoto fut signé donc sans les Américains. Il s'agit, en prenant une année de référence qui est 1990, de se dire que l'on va avoir plus de 5%, un petit peu plus de d'émissions de gaz à effet de serre, donc en moins par rapport à cette date de référence d'ici 2012.
Pour les pays industrialisés.
Pour les pays industrialisés.
Pour les autres, pour l'ensemble de la planète, depuis 1990, on a encore augmenté d'un tiers les émissions annuelles. C'est-à-dire que, on n'est pas encore entré dans la réduction.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on attend un pic, comme vous avez ce fameux pic, le pic oil pour le pétrole, on attend un pic de gaz à effet de serre autour de
quand? On espère 2015, et on n'est pas sûr d'y arriver, pour une raison très simple, c'est que la population humaine continue d'augmenter, mm-hmm. et puis que les pays émergents, et que les pays en développement, et c'est normal, émettent plus. Et les réductions des pays industrialisés ne compensent pas encore ces doubles sources de réduction.
Alors, à Bali, on essayait donc de prévoir, on essayait donc de parler évidemment d'avenir, parce que 2012, ça va arriver très très vite.
Voilà.
Donc, quels sont effectivement les enjeux? Qu'est-ce que l'on peut espérer? Sur quoi ça a loupé? Dites-nous tout.
On est gouverné par deux traités internationaux. Le premier, la Convention de Rio, juin 92. Le deuxième, protocole de Kyoto, décembre 97. Le protocole de Kyoto donne des obligations de réduction contraignantes, sous peine de sanctions, pour les pays industrialisés. Et l'échéance du protocole de Kyoto, 31 décembre 2012. Donc au 1er janvier 2013, en termes d'objectifs, on n'a plus rien. Et donc nous sommes en train de préparer un troisième traité qui devra être en fonctionnement au 1er janvier 2013. Bien évidemment, pour qu'il soit en fonctionnement, il faut qu'il soit ratifié par les parlements. Les traités, c'est les parlements qui les adoptent. Mm-hmm. Et donc, 200 parlements nationaux vont devoir délibérer. Bien évidemment, c'est une fantaisie qui prend forcément 2 ans. Il y a toujours l'un ou l'autre qui a des élections. Et donc, il faut qu'on ait fini la rédaction du texte de traité en 2009. Et puis les petites lignes du contrat, probablement en 2010.
C'est-à-dire que le gros de l'affaire doit être fait, vous dites, fin 2009.
Ah oui, il faut que ça soit bouclé fin 2009, sinon on a un trou d'air.
D'accord.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, elle se situe du côté du locataire du bureau ovale à Washington, hein, George Bush, mm-hmm. Les États-Unis ne bougent toujours pas.
Oui.
Et donc, il faut attendre l'élection présidentielle du 4 novembre de cette année, sachant qu'aux États-Unis, le président de la République, le président n'est pas immédiatement en fonctionnement, il entre en fonctionnement en janvier.
Oui.
La nouvelle équipe américaine sera là en janvier 2009.
Alors
donc on a toute l'année 2009 pour boucler la négociation aux États-Unis, et puis on a, donc à partir de maintenant, on est en train de préparer tout ça. Donc Bali, c'était le point de départ de tout ça. Quelles vont être les règles politiques que l'on va se donner pour cette négociation?
Alors on sent bien, Pierre Radan, donc la course poursuite là actuellement qui est en train de s'opérer, ça va dominer véritablement la diplomatie internationale dans les mois qui viennent, ça?
Bon, déjà un petit témoignage, Jean-Louis Borloo est à Bali. Il dit, mais pourquoi la négociation n'avance pas plus vite? Remarque que je lui fais, qu'il l'a mis dans une grande stupeur, monsieur le ministre, nous allons devoir voter, dans le cadre de l'ONU, quel climat nous voulons sur Terre.
Oui.
C'est de ça dont il s'agit. Et vous voyez que dans cette affaire-là, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des pays qui sont menacés de disparition. Les atolls du Pacifique, qui vont être submergés par la hausse du niveau de la mer. Mais il y a aussi des pays qui sont bénéficiaires. La Sibérie va avoir une augmentation de la production de son agriculture par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, bien évidemment, avec le réchauffement.
Même en relarguant du métal, ils pourront
Et donc on a cette difficulté-là. Et donc, voter l'avenir du climat, ce qui va être nécessaire puisque l'homme a changé de climat, donc il va falloir le redresser, est bien évidemment une affaire très difficile et très conflictuelle. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que plus un enjeu est commun, plus il devient conflictuel. C'est pas spontané de penser ça. On espérait que, puisque c'est quelque chose de grave, on va tous s'embrasser sur la bouche. Mais non. Chacun fait valoir d'abord son intérêt. Et ces négociations sont des négociations difficiles.
Mais ce que vous dites justement, Pierre Radan, c'est que d'ici 2009, on le sait, mais le climat n'appartient plus seulement à la nature, c'est qu'il est en co-gestion maintenant avec l'être humain. Et donc, c'est nous tous.
Oui.
Et c'est ce choix-là, donc, effectivement, qu'il faut essayer de faire les uns les autres.
Tout à fait. Alors, on avait sur la table à Bali deux choses principales à faire. D'abord, essayer de convenir de principes politiques communs, quels vont être les bases de ce prochain traité. Disons les choses telles qu'elles sont, on a là-dessus lamentablement échoué. On n'a pas réussi à trouver des bases politiques communes. Comme souvent dans ces négociations internationales, on a une espèce de shopping list, de liste de courses dans lequel on met tout un peu en vrac, dans lequel les choses qu'il va falloir regarder plus tard, mais c'est pas organisé, c'est pas hiérarchisé, et donc pour le coup ça prépare mal le boulot. Alors ce qui a été tout de même par contre obtenu à Bali, c'est que, entre guillemets, la délinquance américaine arrive à sa fin.
Oui.
C'est-à-dire que les Américains se sont mis à l'écart de la communauté humaine sur cette question de climat, probablement avec l'idée que en 2001, quand George Bush a dit que les États-Unis ne voulaient pas du protocole de Kyoto, il a eu le sentiment probablement que l'affaire serait enterrée. Ce qu'il faut noter après, c'est que les États-Unis n'ont même pas réussi à débaucher une petite île des Caraïbes ou une république bananière ou je ne sais quoi d'autre. Ils se sont retrouvés dans un isolement total, et d'ailleurs à Bali cet isolement est encore venu un peu plus fort qu'auparavant, parce que le seul pays qui était d'accord avec les États-Unis qui a été l'Australie a dit à Bali qu'elle ratifiait le protocole de Kyoto. L'Australie est rentrée à la maison. Donc il n'y a plus qu'un seul pays qui est isolé du reste de la planète, c'est les États-Unis.
Oui, parce que petite incidence, mais c'est vrai que sur l'Australie, on va quand même le rappeler, c'est plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui, c'est 14 fois ou 15 fois la France aussi en termes
oui,
de surface.
Oui, et puis l'intérêt de l'Australie, c'est que l'Australie est un grand pays charbonnier.
Et voilà.
Et donc le charbon est une énergie qui balance beaucoup de gaz carbonique dans sa combustion, et donc on voit bien le type d'intérêt australien qui était derrière cette affaire-là. Toujours est-il, à Bali, les États-Unis n'ont pas été capables, ou n'ont pas envie peut-être, plutôt pas envie, de mettre sur la table une alternative au protocole de Kyoto. C'est-à-dire qu'on n'a pas une solution de rechange, qu'il aurait d'ailleurs fallu étudier avec honnêteté, de la part des États-Unis. Il y a le protocole de Kyoto, il faut élargir le protocole de Kyoto, mais on va rester sur la base du protocole de Kyoto qui, en fait, sort confirmé de cette affaire-là. On avait aussi à Bali deux sujets qui étaient importants sur la table. La question de la déforestation.
Bien sûr.
Alors, le fait qu'on déforeste la forêt équatoriale, avec souvent, on brûle la forêt.
C'est pas rien, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre à peu près.
C'est un cinquième. C'est un cinquième.
Émissions mondiales.
Les émissions mondiales, alors c'est l'Amazonie, c'est l'Afrique centrale, le bassin du Congo, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, toute cette ceinture équatoriale, il faut à tout prix la protéger. Elle est la source principale de biodiversité dans le monde, et puis elle est un régulateur absolument déterminant du climat, et la faire partir en fumée est une horreur absolue. Et là, il y a eu un vrai progrès qui a été fait à Bali là-dessus, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des politiques, dans le cadre du prochain traité, bien sûr, on va mettre en place des politique pour protéger la forêt. Je vais le dire, là, peut-être tout de suite, déjà, à travers un témoignage, qui était très poignant, qui date d'il y a 2 ans, mais qui a été depuis confirmé. c'est le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mm-hmm. Vous voyez, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, qui dit « Je suis un peuple de la forêt. Nous aimons notre forêt, nous vivons de notre forêt. Et nous n'avons de l'argent que si nous la débitons en planches. Il faut que l'humanité nous aide à la fois à protéger notre forêt, ce qui est notre intérêt, et en même temps, nous, à vivre. Et donc, il faut qu'on ait de l'argent. Non pas si on débite la forêt en planches, mais si on la conserve. Non. Et donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a proposé un système de protection de la forêt, et c'est ça qui a été adopté à Bali, au bout de 2 ans.
Alors, Pierre, c'est vrai qu'il y a toujours des euphories, des tensions lorsqu'il y a ces négociations. En même temps, ce petit monde de la négociation climatique que vous connaissez donc par cœur, maintenant, et je vous le disais, on se sent aimé, quoi. C'est-à-dire maintenant, on est reconnu. On est reconnu par tout le monde, par les instances, par notre famille, ce qui ne fait jamais de mal. Bon, et puis... Il y a aussi ces tensions. Et là, vous vous êtes rendu compte, à un moment, on s'est rendu compte que ça coinçait, quoi. Ça a commencé à bloquer. Et on ne savait peut-être pas forcément trop pourquoi. Il y a toujours ces Sherpas qui sont en train de travailler avant l'arrivée des ministres. Comment ça se passe, là,
à ce niveau-là ? Alors, là, c'est le gros point de Bali. Les scientifiques du climat nous disent, pour stabiliser le climat sur Terre, il faut qu'on divise par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Donc 2 mondialement et 4 pour les pays occidentaux,
ah oui,
dans
oui,
la France.
4 pour la France, ouais. Ah oui, parce que on est en-dessus de la moyenne. Hein. Oui. Bon. Et les responsables de la négociation ont essayé de faire adopter ça à Bali, comme base de négociation. Révolte des pays en développement. Pays en développement disent, attendez, vous nous demandez de stabiliser le climat, mais vous ne nous proposez pas une clé de répartition entre les pays riches et les pays pauvres. Mmh. Nous, nos populations, qu'est-ce qu'elles demandent ? C'est de sortir de la pauvreté. Si vous nous dites que cet objectif de sortir de la pauvreté est secondaire par rapport à la protection du climat, et que vous ne nous proposez pas de solution pour nous développer en compatibilité avec ces objectifs du climat. Bien sûr que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut stabiliser le climat sur Terre. Nous, pays en développement, nous sommes les premiers qui sommes victimes de cette affaire-là. Les pays du Sahel, par exemple. Hein. Mais si vous ne nous proposez pas comment faire, on peut pas suivre. Et donc la conférence de Bali s'est complètement bloquée là-dessus. Oui. Elle s'est bloquée là-dessus sur une question. Ça a été la dernière nuit à Bali et la journée qui a suivi ont été pour moi l'un des meilleurs débats politiques que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est-à-dire qu'on est là sur une question tout à fait centrale. Il faut que l'on fasse la paix avec notre planète, qu'on gère notre planète au mieux, mais en même temps, il faut qu'on trouve des solutions pour davantage de justice sociale, davantage d'accès au développement pour les pays les plus pauvres. Et voyez bien, si on gère l'un en conflit avec l'autre, on ne va pas s'en sortir. Et donc, il faut qu'on trouve ça. Et donc, la question qui est sortie de Bali, c'est la question fondamentale de ce siècle. Sommes-nous capables d'inventer un nouveau mode de développement compatible avec la stabilisation des conditions de vie sur Terre ?
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last, I know. This is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what
I'm Should I give up or should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up?
C'était Adèle sur France Inter, donc bienvenue dans ce 21e siècle. Nous sommes là tous réunis sur cette terre, vous derrière ce poste de radio. Et comme on sait très bien que la peur, l'anxiété, la culpabilité ne sont pas exactement, alors un, notre fond de commerce, et deuxièmement, la manière de résoudre les problèmes, même si les alertes sont parfaitement réelles, eh bien avec Pierre Adèle, on essaye de poser calmement, on va dire, ce que ce pourrait être ce siècle demain, mais surtout à partir de ce qui est sur Bali, et puis Copenhague, donc qui va arriver, effectivement, en 2009. Pierre, là, vous avez tout à l'heure parlé, et on était peut-être un petit peu trop vite, sur l'Afrique. Grand oublié, c'est-à-dire que là aussi, on le voit dans les négociations internationales, c'est de plus en plus un fossé qui se creuse. Le scénario gagnant pour un continent comme l'Afrique, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, c'est une enquête que j'ai commencée il y a un an et demi, parce que je voyais bien que la négociation n'allait pas du tout dans cette direction-là. Et donc, j'ai fait une espèce de radio-trottoir des négociateurs africains. Quels sont les problèmes principaux de votre pays qui ont un lien avec cette affaire de climat et d'énergie ? Et autant les gens étaient discrets dans la négociation, autant à partir du moment où on appuyait sur ce bouton-là,
ils se sont lâchés.
Alors, quelques images. Nos amis africains ont totalement manqué de goût. Ils se sont fait coloniser par des pays tempérés la veille d'un changement climatique.
Ah, bien vu. oui, c'est ça.
Ça donne quoi ? On leur a exporté des HLM avec des toitures terrasses, oui. des vitres exposées au sud, dans des conditions absolument invivables, mm-hmm. bien moins bonnes en termes de conditions de confort que leur habitat traditionnel. Et donc, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, alors pour l'Afrique et puis je dirais pour le reste du monde, c'est qu'il faut améliorer la qualité de construction. Les conditions de vie à l'intérieur des bâtiments, c'est un cinquième des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors, c'est les pays froids, mal isolés, des besoins de chauffage importants. Et puis, dans les pays chauds, une conception des bâtiments qui rend nécessaire de plus en plus la climatisation. Climatisation qui, dans ces pays-là, est faite à partir de combustibles fossiles. Les centrales électriques tournent au pétrole. Bon. Et donc on a là un vrai problème. Deuxième image. Dans l'ensemble de ces pays-là, dans les populations les plus pauvres, des gens qui n'ont pas de revenus, l'un des besoins énergétiques principaux, c'est la cuisson. Et donc, vous avez des femmes, parce que c'est sur elles que ça repose, qui doivent aller de plus en plus loin pour aller chercher un tout petit peu de bois pour faire la cuisson du midi.
Vous vous rappelez qu'après, je crois que c'est à peu près 3 milliards d'habitants utilisent le bois pour se chauffer ou bien pour chauffer les aliments.
Voilà. Et bon, on sait que quand vous faites un four, enfin, vous faites cuire quelque chose sur 3 pierres posées au sol, 4% seulement de l'énergie du bois chauffe la casserole. 96% ne chauffe pas.
Vive les fours solaires.
Et donc vous avez un couvert végétal qui est dévasté pour un usage énergétique dramatiquement faible et sur lequel on a bien évidemment plein de progrès possibles à faire. Mmh. Et autre image derrière, c'était Nairobi l'année dernière qui était le lieu de la conférence. Nairobi est une ville de montagne. Les riches habitent sur le sommet des collines. Hein, on est en altitude. Comme on est sur l'équateur, ils flottent tout le temps. Comme la ville n'a pas de moyens financiers, elle ne peut pas ramasser les ordures. Et donc, les gens balancent les ordures sur les flancs de collines.
Et ça descend.
Et vous avez le fond des vallées qui est en gros utilisé par les bidonvilles. Et donc, les bidonvilles se récupèrent les jus des décharges des flancs de collines. Bon. Donc, question fondamentale, il faut régler la question des déchets ménagers sur l'ensemble des pays en développement, sachant que par ailleurs, ces déchets ménagers émettent du méthane. Méthane qui est lui-même facteur de changement climatique, de gaz à effet de serre.
Quatre fois plus important que le CO2. D'ailleurs.
Voilà. Et donc, vous voyez qu'on est là sur des sujets sur lesquels il faut qu'on trouve une alliance, sinon on perd et on
possible,
perd tous.
Hein, c'est possible.
Une alliance entre des stratégies de développement et l'amélioration des consommations d'énergie et la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors on est en train de travailler là-dessus et on a fait des rapports vis-à-vis des pays africains francophones et là j'ai eu le plaisir à Bali que les pays anglophones sont venus nous voir en nous disant bah, écoutez, nous on veut travailler avec vous là-dessus. Les pays francophones et les pays anglophones, alors c'est un petit peu...
Francophone et Commonwealth, ça nous fait combien de pays au total ?
113.
Ah oui.
On fait plus de la moitié de l'ONU avec ces deux pays, avec ces deux communautés linguistiques-là. Et malheureusement pour nous tous, on a les plus pauvres. On a toute l'Afrique et on a tous les micro-États du Pacifique, de l'océan Indien et de la zone Caraïbe. Et donc tous les pays qui sont dans les plus grandes difficultés. Et donc le travail qu'on va essayer de faire pendant cette année et l'année prochaine, c'est d'essayer de mettre sur place un projet de développement pour les pays les plus pauvres, compatible avec l'attente de leur population de sortir de la pauvreté, économe en énergie, parce que depuis Kyoto, le prix du pétrole a été multiplié par 4. Et puis derrière, compatible avec cette question de changement climatique. En tout cas, c'est là un projet absolument enthousiasmant. Et Bali, je dirais, par l'échec, par la question grave qui a été posée, que j'exprimais tout à l'heure, est-on capable d'avoir un développement pour l'humanité compatible avec cette question climatique, nous a mis en face de nos responsabilités et des questions fondamentales, à nous maintenant d'être capables de travailler pour répondre à ça.
Et on sent bien que ça crée quand même une sacrée dynamique, parce que là aussi, ça fait un projet commun. Lorsque l'on est dans des négociations internationales comme celle-là, Pierre Adane, est-ce qu'il y a, je dirais, un on et un off comme au Festival d'Avignon ? On imagine bien qu'il y a des tractations qui doivent passer dans les couloirs.
Ah, alors, c'est pas ça. C'est plus mélangé que ça. Une conférence de l'ONU sur le climat, c'est 10 000 personnes. Alors, vous avez des négociateurs qui représentent les administrations de leur pays, des ambassadeurs, ensuite les ministres viennent, hein, et puis des fonctionnaires. Mais vous avez à la même machine à café et dans la même file d'attente les ONG, les scientifiques du climat, les entreprises qui viennent voir comment les choses vont avancer, et puis les banquiers qui sont là, les journalistes. Donc c'est toute une population qui se brasse très intimement, qui échange avec donc des choses qui avancent fortement. Alors bien évidemment, les négociations les plus dures, les plus centrales, c'est les ministres, et ça se fait à un moment, à un dernier carré, 50 ou 10 ministres pour la fin, pour les bras de fer, si je puis dire, à la fin. Mais par ailleurs, c'est les ONG qui tous les jours publient dans la conférence un journal de ce qui s'est passé la veille. Oui. Parce que elles vont interroger les uns et les autres, elles suivent les uns les autres. Vous avez dans les ONG les associations, des gens qui sont techniquement aussi compétents que du côté des négociateurs, qui bien évidemment, elles, parlent avec, bien sûr, un petit peu moins de langue de bois, et qui disent les choses. Donc vous avez une population qui est une population assez représentative, en fait, finalement, de l'humanité. Et puis vous avez, chaque fois qu'on arrive dans une ville pour une négociation de ce genre, bah vous avez la population locale qui vient avec ses banderoles manifester « Sauvons la planète » ou des choses de ce genre-là. Donc vous êtes pris dans un bain. Et ça, c'est une bonne chose de ces négociations de l'ONU. C'est pas quelque chose qui est strictement limité, je dirais, à des professionnels de la politique ou à des professionnels de l'administration. Ça palpite davantage et ces réunions sont absolument, de ce point de vue-là, tout à fait passionnantes.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une culture de mise en œuvre après sur le terrain, ou bien est-ce que l'on est quand même beaucoup dans des diplomates, dans des juristes, je ne dis pas qu'ils n'ont pas une culture de mise en œuvre, mais quand même, est-ce que...
Alors ça manque. Ça manque énormément. Ça manque énormément. Les gens qui sont un peu au cœur de la négociation sont soit des gens de l'environnement, mais qui sont au niveau des ministères et sur des questions diplomatiques internationales, donc qui sont quand même des généralistes alors à un niveau élevé, mais bien évidemment loin du terrain, soit des diplomates de ministères des Affaires étrangères. Qui eux n'ont pas franchement grand-chose, grande sympathie sur les questions d'environnement, ils sont simplement là pour défendre les intérêts de leur pays.
Oui.
Bon. Et donc vous avez entre ces deux populations-là des tensions qui sont assez fortes. Mais tout ça est très loin du terrain. Or, ce qui est clair dans cette affaire de changement climatique, c'est que vous êtes là devant la question politique, la première question politique totale de l'histoire humaine. C'est la première fois qu'on est sur un enjeu planétaire où on échoue si l'un d'entre nous échoue. C'est-à-dire que si la Chine ne s'occupe pas du climat, ben le climat va changer, même si l'Europe est vertueuse. Donc on est là obligé d'être astreint. Mais de l'autre côté, le climat, on ne sait pas le résoudre si chacun d'entre nous, dans sa vie privée, hein, parce que la moitié des émissions des gaz à effet de serre dans un pays comme la France, c'est les particuliers, notre chauffage, notre alimentation, nos modes de transport, notre consommation. Ouais. Bon. Et donc on est là sur une question tout à fait totale. Et cette composante terrain est malheureusement trop faible dans les négociations.
De toute façon, la clé de l'affaire, c'est de pouvoir garder ce climat avec 2 degrés, on va dire, supplémentaires. Parce que ce que nous disent évidemment les scientifiques, avec des marges d'incertitude, on le sait bien, mais... C'est qu'au-delà de ça, ça peut devenir à peu près n'importe quoi le climat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça devient extrêmement erratique. Mais 2 degrés, ça doit être possible d'arriver effectivement à ce que ce soit bien.
Ça va être très dur, mais l'affaire est très sérieuse. On va doubler les besoins alimentaires humains d'ici 2060. La population humaine va augmenter de moitié, et puis une grande partie des gens aujourd'hui mangent mal.
Bien sûr.
Or, la surface agricole mondiale est en cours de réduction, progression des déserts. Bon. Et donc, si le climat change très très fortement, on va perdre de la production agricole. Et donc, vous voyez que cette affaire de 2 degrés, ce sont les conditions de la paix sur Terre. Il faut l'entendre comme ça.